Bienvenue dans Cast, une série de rencontres audio en toute intimité avec les personnalités qui font la mode d'aujourd'hui. Avec Nicolas, si on a décidé de lancer ce format, c'est pour vous dévoiler les dessous d'une industrie bien souvent idéalisée et vous entraîner avec nous dans les coulisses de la mode. Cast, c'est un peu comme une place en first row qu'on vous offre pour découvrir tous les visages et tendances de l'industrie. À travers le parcours de nos invités, des dirigeants, des mannequins, des designers et des talents en tout genre, nous aborderons sans tabou, et j'insiste bien sur le sans tabou, toutes les thématiques qui touchent l'univers de la mode.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
La Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
It's fashion art.
It is. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Ok, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know.
That's all.
On accueille aujourd'hui le premier mannequin de la saison, Estelle Chen.
Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Vous l'avez probablement vu dans la dernière campagne Louis Vuitton ou la campagne Longchamp, où dernièrement elle vient de défiler pour Isabelle Marant et Céline.
Merci Estelle pour ton temps, on est super contente de t'avoir
Pas
avec
de
nous.
Pas de souci.
On va faire simple, on aimerait que tu nous parles de ton parcours du début jusqu'à aujourd'hui, avec les étapes qui te semblent importantes. Donc on t'écoute.
Alors tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Estelle Chen, j'ai 22 ans et je suis née à Paris et je suis d'origine chinoise. Donc j'ai été scoutée à l'âge de 14 ans par mon agent mère, qui est Alexis Louison. Je crois qu'il est passé au podcast il y a quelques semaines.
Exactement, c'est notre première invitée.
Et donc voilà, donc c'est
on
Alexis.
On passe le bonjour.
Oui, coucou Alexis. Et donc c'est Alexis qui m'a scoutée quand j'avais 14 ans. Dans un jardin, le jardin du Luxembourg à Paris, j'étais avec mes parents et mon frère et on se promenait et donc voilà, on a quelqu'un qui arrive, qui vient nous tendre sa carte de visite et qui nous propose et qui nous demande si je suis intéressée ou pas à devenir mannequin dans le futur.
Ok, toi c'est quelque chose auquel tu avais déjà pensé ou...
Comme j'étais assez grande et fine à cette époque-là, tout le monde disait « Ah, tu es grande, tu devrais tenter de devenir mannequin ». Donc c'est vrai que ça m'a toujours un peu trotté dans la tête, cette idée, et surtout que j'aime beaucoup la mode depuis que je suis petite. C'est vrai que j'ai toujours voulu peut-être me lancer dans le mannequinat. Et donc,
c'était la bonne occasion, la bonne rencontre.
Voilà, c'était une bonne rencontre, au bon moment.
Ok. Donc une fois que tu as eu cette rencontre-là, c'était quoi la suite ?
J'en ai parlé à mes parents, bien sûr, et on est allé voir Alexis et son associé à l'époque, c'était Mathieu. Et donc, on est allé les voir et on en a discuté. Mes parents m'ont toujours soutenu, donc ils étaient assez OK. Ils savaient que j'étais plutôt sérieuse dans les études, etc. Donc, il n'y avait pas vraiment de soucis pour eux. Et donc, ils ont accepté. Et moi aussi, comme ça me tentait pas mal, j'ai dit OK, bon, bah pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai signé avec Alexis, qui est mon agent.
OK. Donc là, après ce rendez-vous, qu'est-ce qui se passe pour toi ?
J'avais 14 ans à cette époque-là. Après, à 15 ans, ils me proposent de faire le concours élite. Et donc, je vais faire le casting à Lille et pas à Paris. Donc j'ai fait le casting à Lille et donc j'ai été sélectionnée, je suis allée au casting national après et après en finale.
Finale que tu as gagnée.
Oui, j'ai gagné la finale.
Yes.
Félicitations.
Merci.
Et du coup, donc ça c'est pour la France. Qu'est-ce qui se passe après du coup ?
Donc après, je suis allée à Shenzhen pour la finale internationale. Shenzhen, c'est une ville en Chine. Et lors de la finale internationale, je finis dans le top 15. Et voilà.
Pour toi, c'est génial parce que la Chine, c'est... Ton deuxième pays
Oui, voilà. Enfin, la Chine, c'est vraiment... c'est un peu comme ma maison aussi. J'y vais depuis que je suis toute petite, tous les ans, l'été, pour voir mes grands-parents. Donc, c'est pas comme si je visitais un pays. C'était vraiment la maison, quoi. Et donc, même mes grands-parents sont venus me rendre visite, sont allés à la finale.
Ils étaient fiers de toi ?
Ouais, c'est très fier. Mon grand-père, il avait les larmes aux yeux. C'était assez émouvant. Ouais.
C'est génial.
Oui.
Après, donc, cette finale, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Tu signes chez Elite, c'est ça ?
Donc, je signe chez Elite Monde. Donc, Elite Paris, c'est mon agence. Comme j'habite à Paris, donc c'est eux surtout qui s'occupent de moi. À cette époque-là, c'était Jérémy, mon agent. C'est encore mon agent aujourd'hui. Et donc, je commence à faire le développement de la new face, c'est-à-dire les tests photos, les castings, etc., pour me présenter aux nouveaux clients. Et donc, je commence les castings pour les shows en mars, il me semble. Donc, ça n'avait pas tout de suite pris parce que, moi, dans mon idée, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. Mais c'est vrai qu'à 15-16 ans, on ne mesure pas forcément le stress et la taille des choses. C'est parce qu'on est vraiment dans un monde d'adultes. Le monde de la mode, c'est vraiment des gens qui sont dans le métier depuis 20-30 ans. C'est des gens qui ont créé des collections depuis 20-30 ans, etc. Et donc, et nous, on fait partie de ce processus alors qu'on n'a que 16 ans, quoi.
Ouais, c'est vraiment se retrouver catapulté dans un monde d'adultes.
Oui.
Brutalement, du coup. Hein.
Ouais, c'est ça.
Et toi, tu t'adaptes vite, du coup, tu comprends vite les codes. Comment c'est géré, même au niveau de tes agents, tout ça
et... En soi, ça allait parce que mon agent, c'était très, très bien avec moi. C'est-à-dire qu'il était très honnête et il savait bien m'encadrer. Il savait me donner les bons conseils, etc. Mais quand on est toute seule à Londres et que voilà, on n'a pas un agent qui est H24 avec nous, c'est assez compliqué de voir les choses comme... Enfin, pas prendre les choses personnellement, parce qu'à 16 ans, c'est vrai que quand on voit que les clients nous disent non et que non, on ne comprend pas pourquoi, on se pose tellement de questions. Est-ce que c'est ma marche? Est-ce que c'est juste j'ai pas le bon look pour eux? C'est assez dur mentalement, je pense.
T'es remis en question en fait, quotidiennement,
plusieurs fois par jour. Quand on doit faire 12 castings par jour, c'est assez compliqué d'être toujours positive, parce que voilà, à la fin de la journée, on est épuisé mentalement et physiquement, parce que on a passé la journée à courir partout, quoi.
Ok, donc toi, ça t'arrive quand même à le gérer à cette époque-là?
Ça allait parce que, comme je l'ai dit, mes parents ont toujours été très, très gentils. Enfin, ils m'ont toujours supporté dans ce que je faisais. Et donc, ils m'encourageaient. Ils me disaient, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est vraiment... en plus, tu fais le mannequinat, ça te fait plaisir. Mais il ne faut pas que tu te mettes une pression, parce que sinon, ça va plus te faire plaisir. Et,
parce que toi, en même temps... Tu fais des cours par correspondance, tu continues ton parcours scolaire.
Oui, voilà. Donc, j'étais en cours par correspondance avec le CNED et j'ai passé mon bac, du coup, en 2016. Et j'étais toujours... je pouvais faire ce que je voulais. C'est-à-dire que je pouvais aller en shooting, faire des défilés, faire des castings. C'était beaucoup plus flexible grâce à cet emploi du temps, on va dire.
Ok. Et donc, la première saison où ça commence à pick-up pour toi, c'est quelle saison?
C'était en mars 2015, où là, j'ai fait les défilés Miu Miu, Louis Vuitton, Louis V, Kenzo, donc des gros défilés pour une mannequin quand elle commence.
Ta carrière prend peut-être un tout petit peu de temps à vraiment se lancer. C'est du temps un petit peu de formation aussi, et d'accommodation à un nouveau milieu,
Ouais.
Du temps où tu prends la maturité aussi, parce que comme tu le dis, t'es confronté à des adultes. Une fois que ça se lance, donc t'as quelques contrats qui s'enchaînent, mais pour toi, c'est quoi le premier gros tournant dans ta carrière?
Je pense que j'ai eu deux tournants dans ma carrière. Le premier, donc, c'est ma première Fashion Week, où vraiment j'ai commencé à travailler avec des grandes marques comme Louis Vuitton, Miu Miu, Paco Rabanne, des clients comme ça, où vraiment ça nous met une certaine image de fille high fashion, c'est-à-dire c'est les bons clients avec qui commencer, quoi. Et après, mon deuxième tournant, je pense, c'est quand j'ai fait le défilé Victoria's Secret, où là vraiment ça m'a mis dans une perspective de carrière plus médiatisée, en gros.
Ouais.
Surtout en Chine, parce que le premier défilé Victoria's Secret que j'avais fait, c'était à Shanghai. Et à cette époque-là, c'était vraiment le plus gros show de l'année pour la Chine, en tout cas.
Ouais, c'est un énorme marqueur.
Voilà. Et donc là-bas, c'est vrai que j'ai eu une très grosse audience, et que c'est aussi grâce à ce tournant-là que j'ai pu avoir d'autres clients, comme par exemple plus commerciaux, mais aussi c'est vraiment des gros clients à avoir, comme les clients comme Maybelline, donc du groupe L'Oréal, des contrats beauté, etc.
Ouais, c'est des gros, gros contrats. Je profite de te poser la question, parce que tu seras peut-être la seule mannequin qu'on reçoit qui l'aura fait. Le show Victoria's Secret, c'était quand même un énorme, comme je disais tout à l'heure, un énorme marqueur. Je sais aussi que ça implique une grosse, grosse frappe.
Oui.
Elle est plus ou moins médiatisée d'ailleurs par les tops qui y participent. Tu nous en parles un petit peu, comment tu l'as vécu?
J'avais fait trois fois le casting. Donc la première fois, j'avais pas été prise. C'était le début où je commençais à me dire, ah, faut que je sois in shape, faut faire du sport, etc., se préparer. Et donc, ça m'a encore mieux préparé, je pense, pour la deuxième année où j'ai fait le casting. Et cette fois-là, j'étais prête. Et c'est vrai qu'à New York, enfin, le casting est à New York pour Victoria's Secret.
Okay.
Et toutes les mannequins à New York, enfin, on peut tous, enfin, toutes le vous le dire, c'est qu'à New York, toutes les filles vont au sport. Elles vont toutes à faire de la boxe, faire des séances de...
Ouais, il y a une culture du gym à New York.
C'est ça, c'est ça. À New York, c'est vraiment les jus verts, c'est vraiment le healthy lifestyle.
Ouais, c'est pas le croissant au beurre parisien voilà. Dès le matin.
Et, bon, maintenant à Paris, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la nutrition et au sport, mais vraiment, c'est que New York, ils étaient vraiment en avance, je pense, sur ça.
Grave.
Et donc, c'était vraiment une habitude que toutes les mannequins, par exemple, qui allaient faire Victoria's Secret Casting, elles faisaient des séances ensemble, elles mangeaient. Enfin, c'était vraiment une préparation collective, on va dire, parce que toutes les filles avaient le même stress, elles avaient toutes le même mindset, en gros. Et donc, c'est vraiment une super bonne expérience à faire. Bon, après, c'est sûr, quand d'autres filles l'ont pas, certaines sont un peu déçues, mais c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai vraiment aimé faire du sport avec mes copines.
Ouais, dans la préparation, tu as senti qu'il y avait quand même une belle cohésion. Là où ça aurait pu être hyper concurrentiel, au contraire, c'était assez bonne vibe.
Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, toutes les filles sont contentes pour les autres. Et ça reste, voilà. Enfin, si une copine là, c'est vraiment quelque chose de génial. Quoi, donc, on est contente pour elle.
C'est cool, ça.
Ouais.
Tant qu'on est sur le sujet, c'est une routine, c'est une rigueur que tu t'imposes au quotidien, ça, toi, de... Faire attention à ce que tu manges, de faire du sport, etc. Je sais que t'aimes bien la cuisine.
Oui,
t'aimes...
j'adore. J'adore, ouais. Non, mais c'est vrai que je pense que j'étais moins obsédée par la bonne nourriture, etc. avant le mannequinat, parce que c'est vrai que quand on devient mannequin, souvent, voilà, on se restricte. Je pense que toutes les mannequins sont passées par là. Je pense que toutes les filles ont un peu ce petit trigger dans la tête où voilà, on est obligé d'être très très régulé dans ce qu'on mange, mais c'est vrai qu'après c'est des bonnes habitudes à prendre et pas tourner vers l'extrême. Voilà, faut arriver à trouver le milieu,
bon équilibre.
Voilà, c'est ça.
Ok. Donc ça, est-ce que même en Chine, au niveau de ta notoriété, Victoria's Secret, c'est quelque chose qui t'a vraiment propulsé sur Weibo, enfin sur les réseaux sociaux qui sont chinois?
Oui, donc Victoria's Secret, celui qui était à Shanghai, comme tous les médias en parlaient, c'était vraiment l'événement de la mode de l'année, quoi. Et donc, il y avait vraiment tous les médias Vogue, Elle, toutes les branches de Chine, des magazines, étaient en backstage à faire plein d'interviews. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez énorme.
Et les médias traditionnels aussi, du coup?
Oui, même par exemple les TF1 chinois, en gros, qui étaient backstage aussi. C'était vraiment assez énorme.
Et ça, du coup, ça te propulse sur le marché? Ça met vraiment un coup de projecteur sur toi?
Oui, parce que depuis ce show-là, j'ai eu beaucoup plus de demandes de la part de clients chinois. Et moi, honnêtement, ça m'a fait très plaisir parce que c'est vrai que parfois, en France, bien qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les mannequins asiatiques, c'est vrai qu'en Chine, après, il y a eu encore plus d'opportunités pour moi, comme voilà, les consommateurs s'identifient notamment à mon apparence.
Ouais. Donc du coup, tu as commencé à aller on-stay, ce qu'on appelle on-stay en Chine, après Victoria's Secret.
Oui, donc la première année, j'ai commencé à faire l'été, je restais 2 mois en Chine pour shooter quelques éditos, faire quelques campagnes pour des clients. Et depuis l'année dernière, enfin avant le Covid, j'ai eu une agence qui s'occupait vraiment bien de moi, qui arrivait à me trouver vraiment des projets très très cool. Et c'est pour ça que j'avais décidé à rester à Pékin pendant une certaine période. Et j'adore la ville, j'adore la Chine, donc j'ai vraiment aimé cette période-là.
Ok, c'est quoi la différence, tu dirais, entre les deux marchés de la mode, entre la France ou l'Europe et la Chine?
Je pense que c'est pas vraiment la même chose parce que, voilà, à Paris, je shoote vraiment pour des marques reconnues en France et dans le monde entier, des marques assez luxueuses. Et en Chine, on va dire que c'est vraiment le marché émergent. Donc, ce sont des nouvelles marques, de nouveaux créateurs chinois. Et, Et c'est aussi très intéressant de voir comment la Chine évolue dans le secteur de la mode.
Tu penses que ça évolue dans le bon sens, du coup ?
Oui, dans le bon sens, parce qu'on voit qu'il n'y a pas que la fast fashion, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le fast fashion, c'est made in China, etc. Mais que oui, il y a beaucoup de créateurs chinois, de nouveaux, enfin, créateurs très talentueux qui voilà, font leur défilé à Paris aussi, par exemple pendant la Fashion Week, mais voilà, qui sont basés aussi en Chine où ils font leur collection.
Quand tu es en Chine, justement, comme tu y passes de plus en plus de temps, une fois que tu es sur place, ta vie elle est quand même un peu différente de celle que tu mènes à Paris. Je sais que tu as une grosse, grosse notoriété. Donc est-ce que ça impacte sur ton style de vie, enfin la manière dont juste tu vis ta vie de jeune femme ?
La Chine, c'est tellement grand que, après, je sais pas si vraiment je suis vraiment très très connue en Chine, mais c'est vrai que quand on me reconnaît, c'est mignon, on me demande des photos, etc. Mais,
c'est toujours bienveillant ?
Oui. Après, je sais que je vais pas. Je pense pas qu'il y ait eu des. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu vraiment de mauvaises rencontres, on va dire. Donc pour l'instant, ça va.
Parce qu'on sait que certaines filles peuvent avoir des stalkers sur Instagram ou des choses comme ça. Bah, c'est un peu le côté négatif des réseaux sociaux aussi, quoi.
Ouais, ça m'est arrivé une fois en France, limite, mais c'était un peu bizarre, mais ouais, c'est pas grave.
Pas en Chine.
Ouais.
Tant qu'on est sur les dérives et les travers de ce milieu-là, la mode et particulièrement l'univers du mannequinat, c'est pas des milieux qui sont parfaits. Il y a plein de choses à corriger, à redire. Et on avance un petit peu dans ce sens-là, progressivement. Toi, perso, est-ce que tu as un combat phare ? Est-ce qu'il y a des choses ou des choses que tu aimerais voir évoluer ?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer, mais il y en a déjà beaucoup qui ont été changées, notamment avec l'âge des mannequins. Donc j'ai l'impression que depuis 2 ans, les filles commencent beaucoup plus tard qu'avant. Avant, les filles avaient 14-15 ans et c'était déjà sur un défilé qui est censé parler à des femmes de 30-40 ans. Et c'est vrai que maintenant, les filles sont beaucoup plus âgées. Elles peuvent commencer à 20 ans, 22 ans, il n'y a aucun problème. Avant, limite, c'était trop âgé pour commencer, j'ai l'impression.
Ouais, bien sûr.
Et donc, même en backstage, on voit que les filles qui ont moins de 18 ans, elles sont un chaperon ou quelqu'un de l'agence. Ou je ne sais plus, c'est 16 ans maintenant. Je crois que c'est 18 ans.
Ouais, c'est ça, 16 ans. Ouais. Entre 16 et 18 ans, il y a un chaperon obligatoire.
Ouais, ouais voilà. Et donc, et aussi pour les fittings, c'est-à-dire qu'on a des horaires maintenant pour les new face. C'est-à-dire que si on est en dessous de 18 ans, eh bien, les filles ne peuvent pas rester après 22 heures ou passer 12 heures ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment bien parce qu'avant, quand moi j'avais commencé, je pouvais rester au fitting jusqu'à 3 heures du matin et personne ne disait rien alors que voilà, on a 16 ans, quoi. On n'est pas.
Mais c'est hyper jeune.
Donc les fameuses chartes en fait qui ont été annoncées sont assez respectées. Toi, de ce que tu en vois entre ce qui était fait avant et aujourd'hui, tu sens une vraie différence ?
Ah oui, je vois une grosse différence, surtout sur les shootings par exemple. Où, voilà, par exemple, nous on a 22 ans et on a une autre fille qui a 17 ans ou 16 ans. Elle va dire au client « mais moi je suis underage ». Et le client aussi le sait, ils vont dire « ah bah toi tu dois partir avant 22h, du coup on va te faire les photos avant ». Donc ça fait toujours plaisir de voir ça.
Nice.
Pour avoir un peu suivi ta carrière, j'ai remarqué que tes clients, c'est des clients qui sont assez récurrents depuis le départ. Tu parlais de Vuitton ou de Paco Rabanne qui étaient là au début de ta carrière, avec qui tu travailles aujourd'hui. Comment tu gères cette relation ? Comment tu t'appréhendes les différents clients et quand tu arrives sur des sets ?
Moi, je pense que c'est toujours. Ça fait toujours plaisir de voir quand un client nous apprécie et nous rebook sur plusieurs années. Donc, notamment quand j'ai commencé, par exemple, en 2015 avec Louis Vuitton ou avec Paco Rabanne et que je vois qu'ils m'apprécient encore et que je peux retravailler avec eux encore en 2020, ça me fait vachement plaisir. Et après, je sais pas ce qu'ils aiment ou pas chez moi. Je pense que c'est après un feeling où, voilà, peut-être que. Peut-être que voilà, ils apprécient plus ma personne maintenant et que voilà, c'est au-delà de la relation client et mannequin, c'est ils m'aiment pour ma personnalité.
Quand tu as des nouvelles opportunités qui se présentent à toi, comment est-ce que tu opères ton choix sur les projets que tu veux prendre ou ne pas prendre ? Est-ce que même tu as toi-même un mot à dire à ce sujet-là ou comment est-ce que c'est géré stratégiquement ?
Sur les, par exemple, les options, les jobs,
c'est ça? Ouais, sur les projets sur lesquels tu bosses.
Moi, j'ai toujours eu une bonne expérience avec mon agence parce qu'on a toujours eu à peu près la même vision de ma carrière. C'est-à-dire que mon agence va toujours me parler avant de me proposer en option à un client, enfin donner une option à un client. Et bon, après, bien sûr, s'il y a un projet que je n'aime pas ou que je trouve ne me correspond pas, je leur en parle et souvent, eux aussi... adhèrent à ma pensée et vont respecter mon choix.
C'est main dans la main, quoi.
Oui, voilà. Donc, c'est une réflexion en groupe, quoi.
Ok. Et d'ailleurs, sur les jobs, c'est quoi ta partie préférée sur les différents jobs? Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail, en fait?
Moi, en vrai, depuis le début, j'ai toujours adoré les défilés, mais je pense que c'est parce que, justement, j'ai pas eu cette saison où je faisais 50 défilés et j'étais... éclatée à la fin.
La hot girl.
Ouais, voilà. Donc, moi, j'ai toujours adoré les défilés, genre voir le processus. Quand je suis backstage au fitting et que je vois les mood boards avec toutes les planches d'inspiration, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore, quoi.
Ok.
Parce que souvent, parfois, on peut se dire que voilà, ils font juste des vêtements, c'est un métier comme un autre, mais toute la création qu'il y a derrière, le processus, tellement. Enfin, ils doivent vraiment chercher des inspirations, des années 70, des années 50, c'est vraiment quelque chose de ouf.
Et est-ce qu'il y a d'autres métiers dans cet univers-là qui pourraient t'intéresser à l'avenir?
Pour l'instant, je suis pas encore sûre, mais bon, après, bien sûr, comme je suis en Chine souvent pour le travail, j'ai pas mal de retours comme quoi j'aimerais bien... Enfin, que, en tout cas, mon agence aimerait bien que, par exemple, je fasse de l'acting, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui me tenterait bien, donc peut-être pourquoi pas dans ce secteur-là. Après, bien sûr, je pense que je vais laisser le temps faire aussi, parce que je pense qu'il y aura d'autres opportunités, peut-être que maintenant j'y pense pas, mais qui vont se présenter à moi
c'est sûr.
Dans le futur.
Et tu te prépares justement pour l'acting? Tu fais des cours?
Pendant le confinement, j'avais fait un mois d'acting en chinois, donc c'était en visio, c'était assez marrant. Et l'année dernière, j'avais fait quelques cours aussi de théâtre à Paris pour me mettre un peu dans le bain, pour voir à quoi ça ressemblait.
Et ça te plaît?
Ouais, ça me plaît pas mal.
Et t'as fait déjà des castings de films, tout ça?
Pas vraiment, mais j'aimerais bien commencer là.
Ok. Sur une autre note, un truc un petit peu plus sérieux, mais vu tes origines, j'aimerais qu'on en parle. C'est vrai qu'on a pu constater qu'avec ce qui s'est passé avec le Covid, il y a une certaine hostilité en France ou en Europe envers la communauté asiatique. Un racisme qui, je pense, était un peu nouveau pour cette communauté. Je voulais savoir si toi, c'était quelque chose qui t'avait impacté, que t'avais peut-être vécu. Est-ce que tu pensais un petit peu de tout ça?
Forcément, au début, c'était au tout début, quand ça venait de commencer, c'était un peu choquant comment les gens nous regardaient dans la rue. Parce que notamment, j'étais par exemple, je faisais les magasins un jour et je suis passée à côté d'une femme et tout de suite, elle a mis son écharpe devant son nez. Donc, j'étais un peu choquée parce que voilà, au final, c'est pas... je savais pas quoi dire, quoi. J'étais choquée, en fait. Je sais même pas quoi dire parce que c'est sur le moment, on voit ça, on se dit mais la bêtise des gens est quand même...
Ouais, et puis immense. C'est une micro-agression... Immense, ouais. C'est difficile de mettre le doigt dessus, tu sais, c'est un ressenti qui est assez clair pour toi, mais c'est dur d'arrêter la dame en lui disant
ton
écharpe, c'est bizarre. Mais au-delà de ça, enfin, avant ça, comme c'est un truc qui t'a surpris, comme tu le dis, est-ce que c'est un racisme que t'as déjà vécu dans la mode ou même pas forcément?
Quand même, en étant mannequin asiatique, c'est vrai que parfois on sent quand même la réticence à nous utiliser parce que sur un show, par exemple, il y a 40 filles, il n'y a que 2 places pour les Asiatiques. Et parfois, je me souviens, j'étais à un fitting un jour et j'avais essayé une tenue. C'était pas un fitting, c'était un casting. Et le créateur me fait essayer une tenue. Et après, il dit non, mais ça, on va la mettre sur l'autre chinoise. Donc j'étais c'est-à-dire que j'étais qualifiée comme mannequin chinoise. Donc en fait, c'est pas parce qu'ils m'aimaient bien mon look, c'est juste parce qu'ils avaient besoin de la mannequin chinoise en fait. Donc ça, c'était un peu... Bon, après, non, mais je peux comprendre que, voilà, maintenant, sur les shootings, on ait besoin de 2 filles caucasiennes, par exemple, une américaine, une européenne, ou voilà, et et 2 autres d'origine, ethnique ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que, voilà, après, il y a un respect envers l'autre, où, voilà, on ne peut pas nous qualifier comme un produit. on te prend juste parce que tu es asiatique.
J'aimerais aussi que tu nous parles de quelque chose. Aujourd'hui, tu es dans une étape de ta carrière qui est un peu plus, pas calme parce que tu fais beaucoup de choses, mais tu n'es plus dans un statut de new face. Donc, tu es quelqu'un de reconnu dans ce milieu. Donc, j'ai vu que tu as lancé une chaîne YouTube, tout ça. Tu fais pas mal de création de contenu. Comment elle te vient, l'idée ? C'est quoi la stratégie par rapport à ça ?
Bon, YouTube, en ce moment, c'est vrai que je poste pas beaucoup, mais quand j'avais commencé YouTube, donc c'est l'année dernière, je me suis dit que, comme pas mal de gens me follow sur Instagram, peut-être qu'ils veulent voir encore plus, par exemple, comment se passent mes journées, où je fais des shootings, quels sont les produits que j'aime utiliser. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien regarder ces vidéos-là. Par exemple, si je vois que quelqu'un, une actrice ou une autre mannequin que j'apprécie énormément et j'aime bien voir ce qu'elle porte ou ce qu'elle utilise par exemple dans ses routines, je me suis dit pourquoi pas faire ça. Et c'est vrai que ça faisait assez plaisir à ceux qui suivaient mon compte Instagram et je me suis dit que pourquoi pas continuer dans cette lignée nouveaux réseaux sociaux comme voilà YouTube ou TikTok encore. Ils sont vraiment en train d'exploser.
Ouais, on voit de plus en plus de personnalités se positionner sur ce réseau-là, parce que comme tu le dis, ça permet de dévoiler peut-être une partie un peu plus perso de ta vie, d'être un peu plus dans des productions qui sont hyper authentiques.
Ouais.
Là où sur Insta, t'as tes photos de modèles, c'est un peu plus posé. Sur YouTube, vraiment, t'as un format plus long où tu peux prendre le temps d'échanger, de discuter. Voilà. On a l'impression de rentrer dans ta vie, dans ton intimité.
Ouais,
c'est assez cool, ça, pour les gens. Du coup, moi, j'avais préparé une petite question pour toi. Donc, on a dit que t'aimais bien la food, que tu mettais pas mal de vidéos sur YouTube. Il y a des vidéos en ce moment qui fonctionnent bien, qui sont « What I eat in a day ».
Ouais.
Ce que je mange dans une journée. C'est quoi pour toi le programme food d'une journée typique ?
Alors, ça dépend vraiment, 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 parce que...
Si tu te fais une journée où tu manges que des trucs que t'aimes.
Que des trucs que j'aime.
Que des trucs que t'aimes.
Alors... Déjà, ça va être des croissants, des viennoiseries. J'adore ça, le matin, des viennoiseries, les croissants, le plus basique, mais c'est vraiment pour moi le meilleur. Après, des pains au chocolat ou quelque chose comme ça. Le midi, c'est vrai que j'adore le japonais, moi. Tout ce qui est japonais ou asiatique. Donc forcément, c'est soit des sushis ou manger.
Ton japonais préféré à Paris ?
Mon japonais préféré à Paris, je sais pas, c'est trop dur.
Une adresse ref.
Yen, c'est pas mal. Après, rue Sainte-Anne, il y en a plein. C'est par exemple Rio, qui est très bon. Et après les.
Ne donne pas toutes tes adresses, t'auras plus de place pour réserver.
On donnera ton compte food à la fin.
Ouais. Donc,
un lunch japonais.
Ouais,
okay.
Lunch japonais. Et pour le goûter, je pense que c'est aussi encore une pâtisserie ou une viennoiserie. Donc, c'est un flan ou un cookie ou une babka. C'est vrai que c'est vachement connu en ce moment, les babkas.
Je crois que tu en as promis une à Nicolas. Je devrais te faire des signes.
Exactement. Au moins, ça sera sur la bande.
Oui. Et après, au dîner, j'aime bien... Enfin, si c'est autre que asiatique, j'aime beaucoup... Je suis vraiment simple, hein, genre soit pizza ou burger, je pense.
Du coup, toi, tu cuisines depuis quand ? Parce que c'est une vraie passion pour toi, par contre.
La pâtisserie, c'est vraiment devenu quelque chose que j'adore. C'est-à-dire que je peux passer... je peux faire des gâteaux tous les jours, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas une corvée, c'est vraiment un plaisir.
Hyper relaxant, la pâtisserie.
Ouais, c'est ça. Moi, j'adore ça.
Mais ça t'est venu comment, en fait ?
Je ne sais même pas comment ça m'est venu.
D'Insta ?
Depuis que je suis petite, j'aime bien faire des gâteaux. Mais je pense que depuis le mannequinat, je pense, quand j'ai commencé à habiter toute seule, j'ai commencé à préparer moi-même ma nourriture. Et donc, mes repas, mes petits déjeuners. Et donc, c'est devenu une habitude où je préparais moi-même ce que je mangeais. Et donc, par la suite, comme j'aime beaucoup tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie, je me suis dit, pourquoi pas, je vais en faire de plus en plus. Et donc, maintenant, j'en fais très souvent.
C'est intéressant que tu dises ça. Je me pose juste la question de savoir aujourd'hui ton entourage. Il est composé de quoi ? Quand je dis ton entourage, c'est ton cercle d'amis proches. Est-ce que tu es entouré exclusivement de mannequins parce que on est avec ce qui nous ressemble quelque part et du coup on a un rythme de vie semblable, donc on se comprend ? Ou est-ce que tu arrives à avoir des amis de cercle complètement différent ? Parce que je me dis que, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que tu me dises que tu te cuisines tes trucs toute seule depuis que tu es assez jeune. de par ton métier, tu as vite été amenée à prendre en maturité, à être très indépendante. Donc, il y a peut-être un décalage avec les autres jeunes filles de ton âge.
Oui, donc comme j'ai commencé les cours par correspondance à 16 ans, je suis plus retournée au lycée après. Donc, pour être honnête, j'ai vraiment presque plus d'amis qui sont du lycée, en tout cas.
Normal.
Et comme je suis pas allée à la fac, j'ai pas pu me faire de nouveaux amis. Donc, c'est vrai que maintenant, principalement, mes amis sont soit mannequins, soit travaillent dans la mode ou dans l'art. Mais c'est vrai que... il y a 2 ans, ça pouvait encore me faire très mal au cœur de me dire que j'ai perdu, par exemple, mes meilleurs amis du lycée. Mais après, je me dis que voilà, dans la vie, on perd des gens, mais on en retrouve d'autres. Et que voilà, c'est grâce clair. Au mannequinat, j'ai rencontré des gens incroyables, qui me comprennent et avec qui je peux parler des heures et des heures et ils vont pas me juger sur ça.
Les relations entre mannequins, justement, c'est quoi ? C'est beaucoup plus de soutien que de compétition ou le ratio inverse?
Je pense qu'au début, quand on commence au tout début, c'est quand même de la compétition. Parce que quand on est dans un modèle appartement avec des filles qui commencent en même temps et que voilà, on reçoit nos emplois du temps du lendemain et qu'on compare à est-ce que tu as ce fitting, à est-ce que tu as ce casting, peut-être qu'on est très amis, mais bien sûr, derrière, on a toujours ce sentiment. De se comparer et de voir qui fait le plus de show, en gros. Bon, après, bien sûr, il y a des filles qui s'en fichent et qui le vivent très bien et qui n'ont aucun problème avec être mannequin ou pas et avoir ou pas des jobs, parce que beaucoup de mannequins, on ne sait pas, mais il y en a, elles n'ont jamais pensé à être mannequins, elles ont juste été
propulsées dans le truc
et que voilà, elles font ça pour le fun et que, enfin, ça, je trouve ça hyper cool, les filles qui ont vraiment
détente, quoi.
Voilà, ça, enfin, je trouve ça vraiment génial. Mais c'est vrai que pour les filles qui prennent vraiment ça à cœur, ça peut être assez compliqué. Mais moi, en tout cas, je trouve que, ou peut-être qu'au début, j'étais un peu
méfiante.
Peut-être méfiante, mais après, comme moi, je suis d'origine asiatique, je me mets pas souvent, enfin, je me compare pas trop aux autres, parce que c'est vrai que mes amies françaises, par exemple, elles ont pas la même apparence que moi et que voilà, on va pas être
sur les mêmes créneaux.
Voilà, on n'est pas du tout dans la même branche, c'est-à-dire, je vais pas être prise sur un job destiné à une fille caucasienne. Moi, je pense que ça vient avec l'expérience aussi de s'accepter et de ne pas être dans cette optique de compétition.
Yes.
Maintenant, je pense que, voilà, après, à 20 ans, je pense que c'est vraiment plus un problème de se comparer aux autres et qu'on a vraiment, après qu'on a des amis, c'est vraiment qu'on les aime pour ce qu'elles sont, quoi.
J'enchaîne juste. Tu as dit un mot qui m'a trigger. Tu parlais d'appartements de mannequins.
Oui.
C'est du coup des appartements qui sont loués par l'agence qui représente les mannequins où on vous place quand vous êtes dans des villes qui ne sont pas vos villes de résidence.
Ouais, c'est ça.
Comment ça se passe, ces expériences-là?
Alors, moi, je trouve ça horrible, pour être honnête, parce que... mais après, voilà, on est obligé de passer par là, parce que quand on a 16 ans, on ne peut pas se permettre de payer un hôtel à 200 euros la nuit pour un mois, parce qu'on doit, on doit faire des castings, et voilà, on est en débit avec l'agence. Mais c'est vrai que quand on est dans une chambre... avec 2 lits superposés où on peut être 4 dans la chambre, c'est assez, quand j'y pense, c'est vraiment invivable, en fait.
C'est-à-dire niveau intimité, c'est sûr que c'est dur. Hein.
Oui, et voilà, enfin, c'est... Bon, après, c'est comme une colonie de vacances.
Ça fait très auberge de jeunesse, ouais.
Très auberge de jeunesse, oui, mais pendant 2 mois, 3 mois, c'est très, très long.
Avec des gens que tu connais pas, en plus.
Ouais, avec des gens qu'on connaît pas, et voilà, après, il y a des filles, par exemple, on sait pas d'où elles viennent, enfin, on les connaît vraiment pas, et on sait pas si on peut leur faire confiance ou pas.
Il y a des histoires de fous.
C'est ça,
hein,
faut tomber sur les bonnes filles.
Dans ton sommeil.
Ouais, les shampoings avec les... Enfin.
Waouh.
Ouais, non,
t'as une anecdote, toi?
Marrant,
on va pas rentrer dans le glauque, mais c'était un truc drôle.
C'est assez marrant, mais ça m'a fait un peu peur. Enfin, c'était une fille un peu bizarre parce que je suis revenue à l'appartement et là, je l'ai vue, elle avait sorti tous les vêtements de tout le monde. Elle les avait mis dans le...
Ah, je run.
Oh, waouh.
Elle avait tout sorti. Elle était en train de se faire des pâtes. Et je ne sais pas ce qu'elle faisait. En fait, elle habitait même pas dans ce modèle appartement, mais elle avait habité auparavant dans ce modèle appartement et elle avait gardé les clés de ce modèle appartement. Et elle est arrivée du jour au lendemain. Elle a déballé tout ce qu'il y avait dans les armoires. Elle les a posées dans le salon. Elle a dit « Oh, je suis revenue, j'avais oublié des trucs. » Et donc, j'étais juste choquée. Donc, à ce moment-là, j'étais avec Léa, donc une de mes amies. Et on était... Je ne sais pas si c'était avec Léa, mais en tout cas, on est resté assis sur le canapé pendant 10 minutes. On attendait qu'elle parte. Et voilà, on était vraiment... Enfin, moi, j'étais vraiment choquée. Et voilà, il y en a plein d'histoires comme ça où les filles... Enfin, il y a plein d'histoires de vol, de choses comme ça.
Les grands classiques.
Ouais.
Ok. Tout à l'heure, tu parlais de mindset. C'est quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir. Si tu devais te donner un conseil à toi, à tes 16 ans, ou si tu devais donner un conseil à une fille qui commence en tant que new face de 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Je pense d'abord à se demander vraiment si c'est vraiment quelque chose qu'on aime. Est-ce que t'as vraiment envie de faire mannequin ? Parce que si t'es pas vraiment motivé, ça sert à vraiment à rien de le faire. Parce qu'après, je pense que c'est vraiment si on aime quelque chose, on peut le faire bien. Mais si on n'aime pas, ça sert vraiment à rien de se mettre dans ce milieu. Surtout que c'est vraiment un milieu
difficile
et pas très compréhensible surtout. Parce que vraiment, c'est très subjectif. C'est vraiment de la chance. Je pense que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Et voilà, après, se préparer mentalement aussi, être entouré de bonnes personnes. Surtout vérifier que son agent, c'est quelqu'un de... Enfin, sont des gens sérieux. Et voilà, rester soi-même et ne pas être influençable. Parce qu'être influençable, je pense que c'est quelque chose qui est très, très dur, surtout à 16 ans. Parce que voilà, il y a certaines filles qui font certaines choses et que nous on n'est pas censé faire.
C'est-à-dire?
Notamment, enfin c'est quelque chose voilà très récurrent. Par exemple, l'anorexie, je pense que c'est les maladies.
Ouais, c'est une pression qui est mise par voilà. Une partie de l'industrie ou par certains codes qui sont envoyés par cette industrie. Que les filles n'arrivent plus à gérer, se laissent...
Ouais, c'est ça, parce que c'est un automatisme, en fait, maintenant, quand on pense à mannequin, on pense à être mince. Bon, maintenant, ça a changé un peu avec... maintenant, les castings sont beaucoup plus diversifiés, il n'y a plus besoin...
On parle beaucoup d'inclusivité, on ouais. L'a vu ici, lors de nos interviews aussi.
C'est ça, mais après, c'est vrai
mais
que...
Mais c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, hein. C'est vraiment ça. Très frais. Hein.
Mais après, honnêtement, encore aujourd'hui, je trouve que sur les castings, on demande quand même aux filles de rester dans une certaine shape. Enfin, on va pas dire... On va pas dire à la fille, c'est pas grave si tu grossis, t'inquiète pas, parce que même aujourd'hui, c'est pas vrai, parce que je sais que si une fille qui a commencé alors qu'elle faisait 86 de hanche, si un jour on la voit à 95, je ne pense pas qu'on la rebookera. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est assez compliqué. Après, si une fille a commencé avec voilà, une certaine apparence et qu'elle continue et qu'elle a été acceptée dans cette apparence-là, oui, c'est maintenant, aujourd'hui, c'est génial, ça arrive. Mais c'est vrai que quand une fille passe de l'âge de 16 ans et que son corps subit des changements dus aux hormones, et c'est totalement normal. C'est le
devenir une femme.
Devenir
juste
une femme, c'est
on n'a pas le même corps quand on devient une femme que quand on sort de l'adolescence.
Voilà, c'est
ah,
ça.
Ah non.
Donc oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est assez compliqué parce que je trouve que maintenant encore, c'est un corps assez... c'est pas assez accepté, je pense, dans le milieu de la mode. Donc, je pense que voilà, faut juste être préparé mentalement, quoi. Après, si on aime la mode et que on aime ça, voilà, c'est sûr que le mannequinat c'est un métier de rêve, quoi. Pour si on aime la mode.
C'est quoi ton meilleur souvenir ?
Je sais pas. Je pense que tous les jobs où j'ai vraiment rencontré des gens avec qui je suis restée en contact, des gens, des amis. Je pense que c'est surtout les rencontres. Dont je garde le plus beau souvenir, je pense. Je pense que j'ai rencontré vraiment des personnes qui me soutiennent. Enfin, c'est vraiment ça, quoi.
C'est cool, ça. Est-ce qu'il y a encore ou des jobs qui te font rêver ou, comme tu le dis, des personnes avec qui tu rêves de travailler ?
Bien sûr, après, j'ai des objectifs, mais après, s'ils ne se réalisent pas, c'est pas grave. Hein, mais,
Non, mais vas-y, on te donne une plateforme, tu peux envoyer un petit message à... Au Alors, photographe, au styliste, je sais pas avec qui tu veux bosser.
Non, mais bien sûr, si je peux shooter par exemple pour des magazines comme Vogue Italie, Vogue Paris, c'est encore. J'avais shooté une fois pour Vogue Italie il y a longtemps, mais vraiment travailler avec des magazines comme ça, c'est assez. C'est le goal d'une carrière de mannequin, bien sûr. Après,
on te le souhaite.
Ouais, merci. Et après, bien sûr, tout ce qui est une campagne parfum, des choses qui font rêver comme ça. Mais bon, après, je suis déjà très contente de ce que j'ai pu avoir et de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et après, si je fais encore plus dans le futur, c'est du bonus, quoi.
C'est tout bénef, trop cool. On finit toujours les petites interviews par des questions gimmicks qu'on pose à tous nos invités. Je commence, je te pose la première. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ?
Je pense, reste toi-même. C'est vraiment le classique, mais je pense que c'est celui qui est le plus...
Ouais, il revient
le
souvent.
Le plus important, ouais.
L'authenticité, c'est important, ouais. En 2020.
Ouais, avoir confiance en soi aussi, je pense, c'est hyper important.
Ok. La tendance mode que tu n'as jamais compris ?
Je peux pas dire,
si.
Parce que c'est une marque.
Ah. Attends, okay. On est sur quoi là ?
Ok, vas-y.
On peut pas donner d'indice ?
Non.
Ok, bon. Vas-y.
Est-ce que t'as un talent caché ?
Les gâteaux, je fais des bons gâteaux. Non, mais je
là,
sais pas.
Là, tu nous as tellement vendu la babka, va falloir en ramener une.
Non. Ah ouais. J'aime bien chanter aussi, mais bon, c'est pas...
Vrai ? Ah, là, attention. Je peux dire quelque chose. Vrai fan de karaoké, ah vrai ouais. Star du karaoké.
Ah, génial.
On fera un karaoké podcast.
Non, mais ici, on peut grave faire des karaokés.
Ouais, ah, on a le setup, on a le setup. Est-ce que t'as un petit guilty pleasure ?
Le chocolat.
Ok. L'emoji que tu utilises le plus ?
Celui qui rigole tout le temps.
Les larmes.
Ouais, qui pleure ouais. Là. Ouais.
Ça doit bien. Le dernier compte Insta que t'as suivi, tu te rappelles ?
Non.
Ou ton
ah
préféré.
Si, Backcast Podcast.
Ah,
ah
très...
si, si.
Merci pour la pub. On aime bien finir les podcasts avec notre petite phrase. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ?
Le bonheur.
Oh, c'est nice. Oh, she's nice. Ouais. Bah, Estelle, merci beaucoup d'être venue.
Merci à vous.
Merci.